Parfois, souvent même, notre vie est guidée par des rencontres et des fréquentations. La vie de mon invité pourrait clairement être digne d'un film qu'on pourrait aller voir sur grand écran. Dans ce nouvel entretien, nous allons voir comment la pauvreté et la misère connue étant enfant peut mener jusqu'à derrière les barreaux. Comment la soif de liberté peut amener à toujours s'évader et l'amour de la culture à prendre des risques flirtant parfois même avec la folie. Mon invité, aujourd'hui, est multirécidiviste. Ex-tôlard qui monte maintenant sur scène et organise des ateliers prévention auprès des jeunes pour communiquer ses valeurs et les erreurs qu'il a pu commettre dans sa vie. Je vous propose, pour ce troisième numéro de Parlez-moi de vous, de plonger dans la vie d'un homme qui en a connu plusieurs, Monsieur David Desclos. Merci David, merci d'accepter cette interview, on s'est déjà vu il y a quelques jours, on se revoit pour parler un petit peu plus longuement, je vais pas non plus prendre tout ton temps parce qu'on est juste à côté de la salle de spectacle où tu vas jouer donc ton spectacle Écroué de rire, c'est dans allez, une heure et demie, on est à une heure et demie du spectacle, quelque chose comme ça.
À 20h, je crois qu'il est 18h.
Ouais, voilà, on est à quelques temps. Ouais. Je me suis posé une question que j'ai pas prévue dans mon questionnaire, mais je vais te la poser maintenant, c'est quand la première fois que t'as foulé les planches d'une salle de spectacle ou que tu es rentré dans une salle de spectacle?
La première fois que je suis rentré, je dirais, c'était pas une salle de spectacle, mais je me souviens, en fin de maternelle, on avait fait un spectacle. C'est un vague souvenir que en moi. J'étais en maternelle dans mon quartier et j'avais joué le rôle d'un docteur. J'avais fait rigoler par mon improvisation, pour mon truc, j'étais gamin et tout. J'avais été sûr, mes parents, pour des soucis, de trucs, ils n'avaient pas pu être là. Et je me souviens que à la fin, tout le monde a dit, où sont ses parents, tout ça. J'aurais pu être sauvé à ce moment, on m'aurait peut-être détecté. C'était que la maternelle, tu vois. Mais pour moi, j'avais fait ça en rigolant et tout, mais j'avais marqué les esprits. Et puis après, je suis parti, voilà, le quartier, l'école primaire, le collège, la délinquance, le truc, tout ça et tout, le banditisme et tout. Je me suis jamais intéressé au théâtre. Pour moi, je ne savais pas. Moi, j'étais passionné de cinéma, par contre, le cinéma et tout. J'adorais le cinéma, les cassettes vidéo, on allait au cinéma par derrière, sans payer et tout ça, parce qu'on n'est pas de sous. Et ensuite, la première fois que j'ai foulé, je devais avoir 32 ans peut-être, 32, 33 ans.
Oui, le petit David à ce moment-là qui jouait son premier spectacle avec l'école maternelle ne savait pas que des années plus tard, il raconterait son parcours sur scène. Mais voilà, dans ce que tu me dis, le cinéma, tout ça, on se tutoie, on s'est dit en antenne qu'on allait se tutoyer. Il savait pas qu'il allait parcourir toute cette carrière maintenant sur les planches. Mais par contre, tu as toujours eu un réel intérêt pour tout ce qui est la culture cinématographique, la culture du spectacle en fait.
Ouais, surtout le spectacle, non, c'est pas comme ça que je parlais. C'était le cinéma, j'aimais bien le cinéma, j'aimais bien les films, j'aimais bien les bons scénarios, les bons films et tout. Et j'allais beaucoup au cinéma avec mes amis. Mais sinon, au niveau spectacle, théâtre, j'en entends rien. Si on m'avait dit il y a 25 ans que je ferais ce que j'ai fait, voilà, là à Paris, comme j'ai quand même fait les plus belles salles parisiennes, même tourné en France, j'ai fait quand même Bobino à Paris, Bobino, Palais des Glaces, Jamel Comedy Club, Théâtre du Gymnase, Apollo Théâtre, Théâtre de Tour Eiffel, j'ai fait les plus belles scènes parisiennes. Ensuite, là, je suis en tournée, je fais plein de villes de France. Là, la semaine dernière, j'étais à Rennes, après, j'étais à Toulouse, là, je suis ici à Nevers, et on fait des belles salles. J'étais loin de me douter, je savais pas moi. En fait, c'est un kiff de tous les jours, c'est comme une résurrection, comme si c'était une nouvelle vie, quoi.
Ouais, parce que pour ceux qui nous écoutent sur Bac FM qui ne te connaissent pas spécialement, faut quand même raconter que ce mec-là qui fait Bobino, qui fait les plus belles scènes parisiennes, comme tu dis, même les plus belles scènes de France, il y a quelques années de ça, il était en prison, mais il s'est évadé deux fois. Ouais. On va un petit peu revenir sur ta vie. On peut dire un peu de fou, parce que c'est la vérité, c'est carrément digne d'un film. D'ailleurs, Ce sera une de mes questions tout à l'heure. Est-ce que c'est en préparation? Est-ce qu'il y a un film qui arrive? Est-ce que Netflix t'a contacté peut-être? C'est les rois de ces films de gangsters, d'évadés, de prisonniers. Mais juste avant, tu parlais donc de la maternelle. J'aimerais revenir sur ton enfance. T'as grandi dans une cité qui s'appelle la cité des Chétanes, pardon, à Caen.
Ouais, c'est le quartier de la Pierrosée qu'on... On l'a appelé la cité des Chétanes parce que voilà, c'était un quartier, même si on était en Normandie, voilà, au-dessus de Rouen, voilà, mais c'est quand même, mais voilà, il y avait des quartiers quand même, c'était des quartiers chauds quand même. Il y avait les quartiers de la Pierrosée, de la Grâce de Dieu, de Couvrechef, Hérouville, Guérinière. C'était ça les quartiers, et le nôtre, notre quartier faisait partie des quartiers des pires. Et dans toutes les villes de France, c'est comme ça, on croit que la délinquance, c'est que dans les banlieues parisiennes, ou Marseille, ou Toulouse, mais toutes les villes de France sont touchées par ça, quoi. Tu peux prendre n'importe quelle ville, comme ici à Nevers, la délinquance nous concerne tous, quoi. C'est partout, partout. Et nous, voilà, quand c'était le quartier, la cité des Chétanes, et on était toute une bande de gamins à grandir ensemble dans la pauvreté, dans la misère, et avec les grands qui nous montraient le chemin pour nous débrouiller, pour voler, survivre, et voilà, et en plus, c'est con à dire, mais on faisait ça pour survivre, pour manger, pour nous habiller et tout, mais et aussi, c'était, il y a une forme de délire, on le faisait aussi en rigolant.
Ouais, c'était du kiff aussi de faire ça, ouais.
C'était du kiff, alors, c'est ce que je dis toujours, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, parce que on pouvait très bien rire et 5 minutes après pleurer, parce qu'il y en avait un de nous qui, en traversant la route, se faisait shooter, et on en a qui sont morts. Et après, même pareil dans le vol de voiture, vol de moto, tout ça, il y en a qui sont morts en accident de voiture, en moto et tout, et on a eu des morts, et sans compter les victimes, t'as des victimes, hein. C'est pour ça que je dis aux jeunes, on rigole, mais ça fait pas assez.
Avec le recul, tu rigoles plus de ce qui s'est passé.
Avec le recul, tu peux rire encore quand tu racontes des anecdotes marrantes, les anecdotes qui ont fait rire, mais quand tu repenses à
certains drames, ouais.
Voilà, les drames, les morts, les victimes, les trucs, bah tu dis que ça fait pas rire et que c'est, t'as plutôt plus de conseils à donner aux jeunes, quoi. Faut pour pas reproduire ça. Alors, c'est vrai, quand on voit des jeunes, par exemple, qui font des rolling en moto, qui font des...
C'est le mode des rodéos en ce moment, par exemple. Ouais.
Rodéo et tout ça, en moto et tout. Alors, je me mets à leur place, je vois comment le délire dans lequel ils sont, ils rigolent. Mais quand un petit enfant, une gamine qui traverse, un gamin, quoi, ou même un adulte, n'importe qui, un monsieur, une dame, bah, tu la shootes, le drame, tu peux... Et où le mec, la moto, il shoot dans une voiture, il meurt, le mec qui est sur la moto peut mourir, il peut faire tuer des autos. Et là, c'est plus du tout marrant. Et on n'en a pas conscience quand on est sur la moto en train de rigoler, quoi. On n'en a pas conscience quand on est dans la voiture volée en train de partir en rigolant. On n'a pas conscience, pareil, quand on est sur... moi-même, sur des cambriolages, il nous est arrivé des trucs la nuit en cambriole où on a failli perdre notre vie. Sur une voie ferrée, par exemple, un train qui a failli nous écraser. Et là, tu te rends compte que c'est une vie de fou. Déjà, dans la vie normale, échapper aux accidents, t'as vu les messieurs...
Oui, déjà, c'est une chance énorme, alors que tu le provoques pas forcément des fois.
La vie est une jungle, hein. Le périphérique, l'autoroute, les trains, l'avion, les trucs. Faut toujours... T'étais pas à l'abri qu'il y ait un accident, un truc, même quand tu manges, intoxication alimentaire. Tu dois faire attention à ce que tu manges, tu dois faire attention où tu mets le pied, où tu tournes, quand tu tournes la tête, tu dois faire quand tu traverses la route, quand tu... Tout le temps. Mais si en plus, enrichit les chances, tu
provoques encore plus le fait que ça arrive.
Tu provoques encore plus les chances de qu'il t'arrive avec cette vie de fou, cette vie sur les motos en rodéo, voitures volées, cambriolage. Il y en a qui partent sur des braquages, armes à feu, course-poursuite avec des tirs et tout ça. Surtout que maintenant il y a la loi qui est passée, refus d'obtempérer. Même si il y en a, ils veulent pas s'arrêter parce qu'ils ont soit un petit bout de shit dans leur poche ou ils sont la voiture est pas en règle. Alors leur pote leur dit vas-y fonce, on n'est pas en règle. Non. C'est ta vie, la vie est tellement belle. Moi, c'est ce que je dis là. J'ai fait le tour des quartiers, j'ai balancé tellement de messages à tous les jeunes. Là-dessus, je leur ai dit on est comme aux États-Unis maintenant. Un contrôle, les mains sur le tableau de bord, vous sortez les mains, là, vous ne touchez rien, votre vie vaut de l'or. Donc, soumettez-vous au moindre contrôle, même si ça finit en garde à vue, même si vous n'êtes pas en règle sur quelque chose, vaut mieux aller en garde à vue, et hop, même devant un juge, devant un truc, et faire attention. Les deux piliers de base dans la vie, c'est la santé et la liberté. Faites rien qui nuit à votre vie et à votre liberté. Voilà, c'est ça, voilà, donc c'est pour ça, on a beaucoup parlé dans les quartiers. Là, je parle comme ça parce que tout me revient. Là, j'ai fait deux jours là, de tour des quartiers de Nevers où on a beaucoup parlé avec les jeunes et tout. C'était intense, c'était très très intense.
Est-ce que le petit David qui vivait dans le quartier des Chétanes à Caen, il aurait peut-être aimé avoir cette intervention que maintenant toi tu fais aux jeunes pour peut-être éviter les conneries qu'il a fait plus tard après?
Ouais. Ouais, forcément, forcément. Et la question, un jeune me l'a dit tout à l'heure, sur la dernière intervention dans le quartier, là. Un jeune me l'a dit, il m'a dit, qu'est-ce que tu aurais dit au petit David Desclos, qui avait 15 ans, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Ça a été une très bonne question parce que j'étais tellement perché, j'étais tellement bête. Je leur ai dit, hein, je dis, vous, par rapport à moi, vous êtes plus intelligent que moi à l'époque. Parce que moi, je sais même pas si je serais resté 5 minutes à l'écouter. Mmh. J'étais vraiment très perché. Et donc, pour répondre à cette question, j'y réfléchis. Je me suis dit, ouais, je me revois, moi, jeune, tellement jeune. Il aurait fallu que je me dise que voilà, ce David Desclos de maintenant aille lui dire des trucs tellement profonds, tellement forts, pour vraiment percuter. Ouais. C'est ce que je fais avec les jeunes.
Peu qu'ils comprennent que la moitié des phrases, mais que le peu qu'ils comprennent, ouais, ça l'impacte tellement, ouais, qu'ils se remettent en question et voilà, ils évitent certaines conneries.
J'aurais pleuré déjà à l'oreille, j'aurais dit, t'engages pas dans cette vie de fou, hein, avec tout à engager ta parole. La parole est très importante, et donner ta parole auprès de tout. Je leur ai conseillé déjà de ça, de pas s'engager dans le banditisme, dans la délinquance, à vouloir être l'un des moteurs de cette bande et tout ça. Et surtout, je leur ai crié dans l'oreille, tu vas vers le cinéma, vers ce qui te passionne. Et parce que j'étais passionné par le cinéma. Alors, le théâtre, j'aurais peut-être pas compris, mais j'aurais dit, tu es passionné par le cinéma, va vers le cinéma, écris, l'écriture, la lecture, parce que j'ai découvert la lecture tard. J'aurais dit, va vers la lecture, le cinéma. Je lui aurais martelé ça, j'aurais dit. Et là, peut-être, ça aurait fini, parce que c'est ce que je dis aux jeunes. C'est vraiment de chercher où est leur passion. Et que ça leur perd. C'est là où est le premier déclic. Leur faire comprendre travailler vers leur passion, c'est possible.
C'était quoi tes références cinéma à l'époque?
Oh ben, malheureusement, j'allais dire les films de gangsters et tout, mais bon, voilà, c'est pour ça que je dis malheureusement, mais j'ai été fan aussi des films de cowboys, de KPDP, de voilà. Une fois dans l'Ouest. Alors je me suis tapé tout l'Était une fois. Il était une fois dans l'Ouest. Il était une fois en Amérique. Il était une fois la Révolution. Il était une fois, voilà, tout cela. C'est le Bon, la Brute et le Truand. Tous les Sergio Leone, je les dévore encore maintenant. Encore, je suis encore accro. Je les découvre encore plus maintenant parce que je me les fais en détail.
Tu les analyses plus qu'avant, voilà. Où tu les regardais en simple spectateur.
Voilà, là, je les analyse déjà. J'analyse la qualité d'écriture, la qualité de réalisation. Donc ça, après, bon, Les Parrains, tous les films de Martin Scorsese, Coppola, tout ça, tous les gros réalisateurs. Et maintenant, et aussi les films marrants de Weber, les Weber, La Chef, tout ça, tous les trucs. J'étais fan des. Et vraiment, moi, quand il y a la qualité d'écriture et la qualité de réalisation, là, je suis.
Tu tombes dedans direct.
Et donc, gamin, c'était ça. J'étais très fan de ça. Et donc, c'est peut-être par là que je prendrais l'angle pour me parler quand j'étais petit. C'est vraiment m'ouvrir l'esprit à ce niveau-là, me percuter le cerveau avec ça en disant, sois pas bête, ça va. Et peut-être que. Peut-être ça l'aurait fait.
Et peut-être un jour, Il était une fois à Caen, avec David Desclos. Si ce film existe, il commencera quand tu auras 14 ans, donc, parce que c'est l'âge où tu tombes vraiment dans le banditisme. Alors, dans le banditisme léger, si on le compare à ce que tu as fait après, parce que tu commences les petits vols, mais c'est du petit vol à l'étalage, en fait, c'est dans les petits supermarchés comme ça.
Ouais, c'est ça, au début, ouais. Mais on dit 14 ans, mais j'ai quand même commencé à voler à 7-8 ans, quoi, pour l'alimentation. Donc, si on partait, moi je voulais vraiment partir. L'idéal, pour moi, l'idéal, c'est pour ça que je parle les Sergio Leone m'ont appris. Moi, pour moi, c'est repartir comme Il était une fois en Amérique, dans le film où on commence gamin, quoi, vraiment gamin, la bande de gamins qu'on était dès 7-8 ans, 7-8, 9 ans, 10 ans, et toute notre adolescence et tout. C'est là que tout se fait, quoi. C'est les premières rencontres. Là, je suis même encore ami avec des potes que j'ai connus quand j'avais 8 ans.
C'était ma question. Est-ce que t'es encore pote, justement? Est-ce que tu vois encore, est-ce que tu communiques encore avec des potes à toi, avec qui vous avez fait notamment le coup de la Société Générale? Vous avez creusé un tunnel. J'aimerais bien que tu l'expliques rapidement après, si tu veux. Ouais. Mais est-ce que tu parles encore avec ces mecs-là? Est-ce que t'es encore en contact avec eux?
Bah, oui. Malheureusement, il y en a qui sont morts. Et parce que voilà, comme je l'ai dit, le banditisme, c'est sombre, quoi.
Il n'y a pas de pitié pour...
Voilà, puis bon, bah, mort sur des... Faut dire la prison, il y a des AVC, il y a des maladies, hein. La prison, c'est laisser dans une cellule comme ça, c'est pour ça, c'est ce que j'ai expliqué aux jeunes, l'enfer de la prison, plus l'enfer du banditisme, les règlements de compte, les accidents, les trucs, voilà, tout ça. Donc on a laissé beaucoup de monde... voilà, donc, et y en a aussi qui sont encore vivants, mais qui sont devenus en l'état de légumes. La prison les a au niveau des cachetons et tout ça. Ils sont sortis, mais ils sont en légumes. Et pour ceux qui ont réussi à s'en sortir, comme moi, qui sont en bonne santé, ben je les revois et ils sont même venus. Okay, au début, ils me prenaient pour un fou dans les tout débuts que j'avais ces idées-là. Et là, maintenant, ils viennent me voir, ils me félicitent, ils me soutiennent. Et c'est des personnes qui eux aussi réussissent leur vie. Ils ont femme, enfants, travail. Et voilà. Il y en a un qui a mis du temps, le dernier qui a mis du temps, qui est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Bah pareil, là, ça y est, il a compris. Donc voilà, je suis content quand ils s'en sortent aussi, quoi. Mais voilà, j'oublie pas ceux qui y sont encore, ou ceux qui sont morts, ou ceux qui sont déglingués, quoi. Et voilà,
Tu dis qu'ils te prennent pour un fou quand tu avais ces idées-là, c'est le fait de monter sur scène et de raconter ton vécu. Donc ça, parce que faut quand même le dire, c'est quand même un truc de ouf. Tu t'es fait arrêter deux fois par les autorités pour deux cambriolages que tu étais amené à faire. Le premier, c'est la Société Générale où tu construis un tunnel, tu te fais arrêter à la sortie du tunnel avec un pote à toi. Il y en a d'autres qui arrivent à partir, ouais. Mais quand tu te fais arrêter pendant un transfert entre deux gendarmeries, là, tu arrives à te sauver parce que, en fait, au moment où ils te mettent les menottes, tu sais mettre la position de ta main dans la manière qui fait que tu vas pouvoir t'évader, en fait. Ouais. Et c'est un truc de ouf à ce moment-là.
Ouais, voilà, donc, le cambriolage, je savais quand ils m'ont attrapé pour le tunnel. Bon, le tunnel, c'était une sacrée histoire, quoi. Parce que, et quand j'ai. Faut les comprendre, mes potes, parce que quand je leur ai soumis l'idée que je voulais arrêter, qu'on s'était trompé et que je voulais partir vers le théâtre et tout ça, ils m'ont pris pour un fou. Moi qui étais le moteur de la bande, l'une des locomotives, j'étais pas que moi, mais voilà.
C'est souvent toi qui étais à l'initiative, voilà, des plans.
Souvent moi, ouais. J'étais pas que moi, je faisais partie du noyau, on va dire. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais il est fou. Lui qui nous a aidés, qui était d'accord avec nous, il nous a entraînés sur tout ça, et là maintenant, il va faire demi-tour. Donc, ils me comprenaient pas. Il fallait que je fasse pour qu'ils me comprennent. Mais en attendant de faire, il fallait que d'abord que je m'occupe de régler ma dette d'honneur avec eux, quoi. Voilà. Donc, bon, j'ai mis en place ce cambriolage. J'ai dit, bon, on va en faire un dernier. On en avait fait plein d'autres et tout. Et j'ai dit, on va en faire un dernier. On va s'attaquer au siège social de la Société Générale. Le siège social de la Société Générale, à Caen dans le Calvados, la deuxième plus grande banque de Normandie. Et par les égouts, quand j'aurais fait voir mon plan était parfait et tout, on a creusé pendant 4 mois, on a creusé le tunnel dans les égouts. Alors pour une raison que je raconte dans mon spectacle, je peux pas spoiler, voilà, on est arrivé à la salle des coffres et tout ça et tout. Bon, après je me fais attraper, je suis en garde à vue, et moi j'ai toujours prévu, j'ai toujours dit qu'il fallait s'évader avant d'aller en prison. Parce que en prison, c'est plus le droit de s'évader. Il y a plus de gardes, plus de trucs. Voilà. Donc, j'avais tout préparé, la façon de me faire claquer les menottes. Je le connaissais depuis tout gamin, comment me claquer les menottes, comment tirer les menottes. J'avais appris à tirer les menottes depuis tout petit. Et donc, voilà, j'avais tout orchestré et tout. Et pendant un transfert, j'ai réussi à m'évader. Les policiers, pendant le transfert, me comparaient à Spadjari. Ils m'avaient comparé à Spadjari.
Le mec qui avait déjà voulu s'attaquer à la Société Générale. C'est ça. Lui, à l'époque, c'était à Nice. Hein.
Voilà, ouais. C'est le gangster des années 70 qui avait cambriolé à Nice, Spadjari. Et ils me disent, dans la voiture, ils me disent, ça faisait 24 heures que j'étais en garde à vue, ils me transfèrent, ils me disent, en rigolant, ils rigolaient et tout ça, ils me disent, t'as plus qu'à faire comme Spadjari, il a mis 4 mois pour s'évader. 5 minutes plus tard, j'étais évadé.
Juste avant de rentrer devant la préfecture.
Voilà, et donc je suis parti, évasion, tout, cavale, tout, et donc après, au bout d'un an, je me retrouve en prison, je fais mes 50 ans, j'ai mon histoire d'amour avec ma femme. Là, voilà, j'ai ma femme.
Ouais, parce que c'est ta femme qui te dit, écoute, ce serait bien que t'ailles te rendre, ouais, entre guillemets, ouais, pour qu'on vive, entre guillemets, tranquille.
Voilà.
C'est à ce moment-là qu'aussi le discours de ta femme, ça te fait une sorte de déclic aussi.
Ouais, c'est un commun accord, c'est un discours mutuel. Moi, j'avais eu mes déclics, hein, pendant ma cavale, j'avais compris, j'étais sûr à 100% que c'était pas ma vie, que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Et donc là, bon, bah. voilà, je me retrouve en prison, et en prison, bah, ma femme vient me voir. Là, c'est parce qu'on parle de moi, prison, moi j'ai pas à me plaindre, j'avais décidé d'être dans ce monde-là, donc je devais subir la prison telle qu'elle était, même si la prison est dure, j'ai pas
à me plaindre. Ouais, t'assumes ton sort en soi, ça.
T'assumes, sinon tu. Voilà, donc j'assumais. Mais là où j'étais dégoûté, c'était de rendre malheureux ma femme, mes parents, voilà, ma famille, quoi, et ma femme. Et donc pendant 5 ans, ma femme est venue avec mes parents aussi. Voilà, ma femme a tenu le coup. Mais pendant cette détention, j'écrivais déjà les prémices de ce spectacle. J'écrivais tout le squelette de ce spectacle. Et quand je suis sorti, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais monter sur scène. J'ai payé ma dette avec la justice. Ma femme m'a attendu. Donc, grand hommage aux femmes. Voilà, voilà, on dit les hommes et les femmes. Et voilà. Et donc je sors. Et là, d'abord, je travaille et tout.
T'es éboueur à ce moment-là, c'est ça.
Au début, parce que. Comme j'avais un gros cas judiciaire, ma femme ne pouvait pas trouver d'autre boulot, fait que je trouve à tout prix un travail. Donc, comme mon père, comme mon petit frère, pour sortir, je travaillais comme éboueur. Et puis après, j'ai trouvé comme commercial. J'ai fait commercial ensuite. Et puis, donc tout allait bien. Puis là, j'ai commencé à aller à Paris, monter sur scène, faire des scènes ouvertes à Paris. Ça commençait à bien marcher. Et là, mes potes sont arrivés en me disant, bah, David, voilà, tu t'es bien reposé, maintenant, on t'a bien aidé quand tu étais en cavale, quand tu étais en prison, on t'a bien aidé, c'est à ton tour maintenant, il y en a encore qui sont en prison, à ton tour.
Et donc à ce moment-là, on arrive vers la fin de ta carrière de banditisme, mais malheureusement, tu te fais attraper, tu te lances dans le trafic de drogue, tu organises des go-fast, tu te fais arrêter à la frontière espagnole. Et à ce moment-là...
Il faut bien préciser que je fais tout ça parce que mes potes veulent que je les aide. Et si je les aide pas, ils prennent ça comme un affront, manque de respect. Donc voilà, ils n'arrivent pas à
comprendre. Ouais, c'est une sorte de loyauté en fait.
Voilà, la loyauté. Donc je le fais et je me fais attraper à la frontière espagnole avec 25 kilos de shit au bout de 2 ans. Hein, j'en fais plein d'abord et tout. Et je me fais attraper à la frontière espagnole. Et là, à la frontière espagnole, ben, j'ai ma femme qui a accouché de mon enfant. J'ai là, voilà, bien, presque 3 ans passés. Donc j'ai une femme et une fille. Et là, je me retrouve en prison à Perpignan. Et je fais 1 an à Perpignan. Ensuite, ils me transfèrent à Draguignan. Je fais 2 ans de prison. J'arrive à sortir en provisoire au bout de 2 ans parce que le dossier n'est pas fermé. Donc, je sors. Là, je vais voir mes potes. Je leur dis, je vous dois plus rien. Ils me disent, non, David, c'est nous qui te devons. Je dis, non, vous me devez plus rien. Je vous dois plus rien. Donc là, ouais, la dette d'honneur, c'est
réglé. Tout le monde est quitte.
Ouais, on est quitte. Et là, moi, je prends femme et fille. Je travaille. Et puis, au bout de 8 mois, je passe au tribunal dans le sud. Et là, le proc demande 7 ans. Je prends 5 ans ferme. 5 ans, j'ai déjà fait 2 ans, il reste 3 ans. Mais encore une fois, j'avais préparé mon évasion, je m'attendais à ce qu'il m'éclate.
Et là, tu décides donc de t'évader une deuxième fois, et alors là, je suis désolé de te le dire, mais t'es un ouf, ça, c'est la vérité, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Tu décides donc de t'évader, tu pars, donc t'es clairement en évasion, t'es clairement un homme recherché, et toi, pendant ce temps-là, parce qu'il faut quand même le dire, tu prends un appart sur Paris, donc ta femme se met en nom sur l'appart, évidemment.
Sous un faux nom.
Voilà. Et toi, tu te dis, par contre, mais tu restes, c'est là où tu restes vraiment un humain, moi je trouve, au-delà d'un mec qui a quand même fait des délits assez graves, c'est que tu te dis, je vais bosser, et donc tu falsifies le diplôme d'ambulancier de quelqu'un de ta famille, et tu pars faire ambulancier, en fait.
C'est ça. Je fais des SAMU et... Bah parce que j'avais juré à ma femme que je ne me remettrais pas les mains dans le banditisme et tout ça. Alors j'ai falsifié, c'est pas bien, voilà, j'ai falsifié, c'est la seule chose de malhonnête que j'ai fait. J'ai falsifié les diplômes de ma cousine et je me suis fait embaucher dans une société d'ambulance à Paris, attachée au SAMU de Paris. Et je travaillais tellement bien, j'avais jamais fait de SAMU de ma vie, j'ai appris tout sur le tas et j'ai fait des SAMU dans tout Paris.
Et là, la journée, tu faisais ça. Et le soir, qu'est-ce que tu faisais?
Je montais sur scène le soir, sous le nom de Pinlu, l'envers de Lupin. Je racontais ma première évasion, mes premières cavales. Les gens adoraient, ils rigolaient, ils me disaient la suite. Je peux pas, je suis en cavale, je partais.
Alors tout le monde pensait évidemment que c'était une vanne.
Tout le monde disait que c'était une vanne,
mais c'était vrai. La vérité.
C'était la vérité, j'étais recherché. Et donc je faisais des scènes parisiennes et tout. Et
c'est là que tu as commencé à prendre amour de la scène quand même.
Voilà,
et
ouais,
tu t'es dit, c'est décidé, faut que je fasse ça. Quoi.
Pour moi, c'était ça, c'était la scène. Et je suis resté 4 ans et demi en cavale à faire de la scène, du SAMU. SAMU, j'ai appris plein de choses, j'ai appris vraiment plein de choses au niveau de la santé. J'ai aidé des gens, des personnes âgées qui en AEG, tout ça, en fin de vie, tout ça. J'ai vraiment pris une claque au niveau des SAMU et de la scène. La scène, j'ai bouffé la scène, j'ai adoré la scène. Et en 4 ans et demi, ma femme m'a offert 2 enfants de plus. J'avais ma fille, mes deux fils sont nés pendant cette cavale. Donc deux filles, j'avais trois enfants, et au bout de 4 ans et demi, je me fais attraper.
C'était stressant, au-delà du fait que tu avais une vie finalement normale, peut-être que tu oubliais un peu que tu étais en cavale par moment. Est-ce que ça restait quand même stressant peut-être?
Je pouvais oublier par moment, je pouvais oublier, mais c'était tout le temps en permanence, ouais. À faire attention, tout le temps. Parce que pendant ces 4 ans et demi, je me suis fait contrôler, j'ai même été en garde à vue. Je me suis retrouvé en garde à vue pendant ces 4 ans et demi.
Ah ouais?
Et j'ai donné un faux nom et tout le train, j'ai réussi à m'en sortir in extremis, j'ai réussi à m'en sortir. Et pendant 4 ans et demi, il m'arrivait des tas de trucs, hein, des trucs de fou et tout. Et pareil, c'est un film. Mais au bout de 4 ans et demi, pour moi, c'était ma vie, c'était comme ça. Donc je vivais comme ça. Et quand ils m'ont attrapé, j'étais dégoûté parce que j'avais mon bébé qui avait 6 mois, ma femme qui était dehors avec mes 3 enfants, tout ça. Je savais que ça allait être dur pour elle. Donc j'ai surtout pensé à elle. J'avais la boule au ventre et je me suis retrouvé à Fresnes.
Et là aussi, t'as une chance de dingue. T'as une chance de dingue.
Avant de parler de la chance, il faudrait que je dise aussi que quand j'arrive à Fresnes, je prends une claque parce que mon papa était incarcéré à Fresnes quand il était jeune. Et de rentrer à Fresnes après mon papa, là ça m'a mis une claque.
C'est une question que j'ai pas osé te poser. Ça, c'est le milieu familial dans lequel t'as vécu, parce que pour moi ça touche l'intime proche. C'est un milieu comme ça, l'incarcération, le délit, c'est un milieu que tu connaissais, que tu...
Ouais, un petit peu, pas autant que moi, mon père, mais il était dans la délinquance, quoi. Il venait des quartiers bidonvilles de Caen, et pour nourrir et s'habiller, il a volé, cambrioler, voilà, il a fait. Donc il a connu les maisons de correction, le ban de Tatiou, maison de correction pour enfants. C'était un ban sur l'île de Tatiou, en face de Saint-Valaou, dans la Manche. Et ban, et ensuite la maison d'arrêt de Caen, comme moi, la maison d'arrêt de Fresnes. Donc il a fait quelques peines, pas autant que moi, mais il a fait quand même quelques peines. Et je le savais tout ça. Et quand je suis arrivé à Fresnes, rentrer dans Fresnes, quand je suis arrivé à la maison d'arrêt de Caen, il y avait déjà été aussi, mais ma destinée était d'aller à Caen, ça m'a pas plus choqué que ça.
Et puis c'était l'environnement que tu connais,
Mais à Fresnes, c'était différent. Quand je suis rentré à Fresnes, en laissant ma femme et mes 3 enfants derrière moi, et rentrer dans Fresnes comme mon père, je me suis dit, là j'ai eu une pensée pour moi. Je me suis dit, surtout après quand ma femme est venue me voir au parloir et qu'elle a ramené mon fils, parce que au parloir, et que moi j'avais été voir mon père au parloir aussi, là je me suis dit,
ça faisait un flashback.
Ouais, c'était un flash, je me suis dit, non, on peut pas, ça se peut pas que de père en fils comme ça, tout le temps, de génération en génération, on se retrouve en prison, tout parce qu'on vient des quartiers pauvres, parce qu'on est pauvre. Ça doit pas être une fatalité. Il faut changer ce destin, il faut changer ça. Et donc j'étais marqué par ça. Et puis je suis rentré dans Fresnes et je suis passé devant la juge en premier. Elle m'a dit ce que vous avez fait. Je lui ai expliqué que je faisais des SAMU, monter sur scène et tout. Et là, elle y croyait pas. Je dis, vous avez fait une enquête. Et bon, moi, elle m'a laissé. Elle a fait son enquête. Alors, je sais pas, c'était quoi la première question que tu me disais?
La chance que tu as eue. Ouais, et justement, je faisais allusion. Alors, il y a eu une chance avec un gendarme aussi, avec un flic que tu as un petit peu voulu embrouiller, puis qui t'a dit, écoute, je déchire la feuille ici, voilà. Ouais. Mais il y a surtout cette chance avec cette juge, justement.
Le policier a fait quelque chose d'énorme, vraiment. Il a été réglo avec moi. Je partais dans un baratin, hein, c'est pareil. Il me dit, David, arrête. Et il a déchiré le dépôt. Il m'a dit, dis-moi la vérité, on parle pas de ce que tu as dit avant, comme tu nous as baratiné et tout. Voilà, il l'a fait, donc grand hommage à ce policier. Et puis la juge aussi. La juge, au début, on ne me croyait pas. Donc moi, j'étais incarcéré, il fallait que j'attende. Au bout de presque un an, je suis repassé devant elle. Elle avait fait les enquêtes. Elle avait fait une première enquête, tellement elle n'y croyait pas. Elle a fait une deuxième enquête, tout était revenu, comme quoi j'avais vraiment fait de la scène, que je montais sur scène, j'avais monté une pièce de théâtre, que je montais sur scène sous le nom de Pinlu et tout ça. Et elle a vu aussi retour du métier, ambulancier dans tout Paris, attaché au SAMU de Paris. Elle a vu que tout ça était vrai. Et là, elle m'a dit, monsieur Desclos, je vous allez faire quelque chose de bien de votre vie. Je vais vous sortir avec le bracelet électronique et vous méritez de faire quelque chose de bien de votre vie. Et pour elle, voilà, elle m'a donné cette chance. Alors j'étais classé irrécupérable, multirécidiviste, vraiment. Et là, voilà, elle fait partie de ces personnes que je dois pas, en plus de ma femme, mes enfants, ma mère, mes parents, mon père, tout le monde. Ils font partie de ces gens qui te laissent ta chance comme ça et que tu dois pas décevoir. Et puis j'ai fait d'autres rencontres, hein, comme Stoby Bugsy, Véronique Guimard, le Théâtre du Gymnase, toutes ces rencontres que j'ai fait. Et ben, parce que j'ai rencontré aussi des gens qui voulaient pas m'ouvrir leur porte, hein, qui croyaient plus en moi. J'ai pas de rage contre elles parce que il faut les comprendre. J'étais quand même un sacré cas. Donc la porte se fermait, tant pis. Mais je m'abattais pas. Je continuais jusqu'à continuer à frapper aux portes, à taper, pour que là, et quand les portes s'ouvraient, voilà, je n'en veux pas à ceux qui m'ont fermé les portes, et, mais je suis.
Tu aussi reconnais là, ceux qui t'ont laissé voilà, ouvert, du moins.
Qui m'ont donné cette chance, et je leur dois. Et tout ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais là pour les jeunes, tout. Je me considère comme une espèce de miraculé. Alors attention, je n'ai pas fait non plus la guerre, je ne reviens pas de.
Non, mais socialement, voilà, peut-être. Plus socialement, ouais.
Voilà, j'ai vu mes potes mourir, j'ai des potes qui sont morts, qui sont devenus en état de légumes, qui sont dans des états. Donc même moi, le premier, je reviens de loin, j'ai failli mourir sur des cambriolages, sur des trucs, il m'est arrivé des tas de trucs de fou où j'ai senti qu'il y avait quelque chose, quoi. Appelons Dieu pour les croyants, la nature pour ceux qui n'y croient pas, la chance pour ceux qui. Mais il y a quelque chose. Et ça, voilà, et je me sens comme un miraculé, comme quelqu'un qui revient de loin, et je me dois maintenant cette mission, je dois être à la hauteur de tout ça et faire tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et
t'es l'exemple type que tout le monde est récupérable, c'est.
Ouais, franchement.
Quand tu parles de toutes ces rencontres aussi que tu as faites, toutes ces anecdotes que tu nous racontes, donc elles sont disponibles dans un livre qui a le même titre que ton spectacle, qui s'appelle Écroué de rire. Justement, ce spectacle, il est mis en scène par Stomy Bugsy, tu viens de nous le dire.
Alors, le livre s'appelle David Desclos, une histoire vraie, aux éditions Flammarion, avec marqué Écroué de rire dessus aussi.
Oui, c'est la même affiche que ton spectacle.
C'est la même affiche que ton spectacle, Écroué. Mais voilà, pour le trouver, pour plus de facilité à le trouver, c'est David Desclos, une histoire vraie, aux éditions Flammarion, le spectacle Écroué de rire. Et oui, j'ai rencontré Stomy Bugsy. Alors, comment j'ai rencontré Stomy Bugsy, peut-être, non?
Bon, si tu veux, vas-y. Ben, moi, je t'écoute. Hein.
On avait un ami en commun qui était en prison, qui pareil, a eu une vie de ouf, Salif Keïta, qui a été en cavale aux États-Unis. On a eu à peu près le même parcours. Quand lui était en cavale aux États-Unis, on s'est toujours entraîné, tout ça, on s'est connu en prison. Mais il venait de Sarcelles. Salif venait de Sarcelles. Et il m'a présenté Stomy il y a quelques années, des années. Et Stomy, c'est comme si on s'était connu depuis tout gamin, quoi. Depuis, on s'est plus jamais quitté. On a écrit les pièces de théâtre ensemble. Un jour, Gérard Détroit, qui est à l'affiche du théâtre du gymnase, on a écrit Écroué de rire. Il fait ma mise en scène sur Écroué de rire. On est sur d'autres écritures là, de séries, de spectacles, de choses. Et il est avec moi dans la boîte de production, Salif aussi. Donc, maintenant, on fait vraiment du lourd. Et puis, j'ai vraiment fait de belles rencontres, quoi.
Alors, justement, on en vient à ce sujet-là. C'est une de mes dernières questions. C'est quoi la suite après ce spectacle? Ça va être un film? Ça va être une série?
Ben, la suite. Bon, ben là on est sur l'écriture du spectacle de Maf Desrulo. Là, Maf Desrulo nous a choisi pour écrire son spectacle, Stomy et moi. Mais moi, à titre personnel, là, il y a le livre aux éditions Flammarion, comme j'ai dit, il y a le spectacle. Et je suis en train de battre pour essayer de tout faire pour qu'il y ait la série télé, la série. Donc là, j'aimerais qu'il y ait la série télé et qu'il y ait aussi la BO du spectacle et la BO de la série télé. La BO, comme il y a la BO des films, moi l'un des premiers à faire la BO d'un one man show. Alors avec plein d'artistes, des rappeurs, des ceci, on a décomposé le spectacle en 14 titres avec les 14 thèmes et faire la BO. La BO avec clip, on a déjà fait un titre avec un clip et tout ça. Voilà, je suis en train. Et puis surtout, j'ai plein d'autres scénarios. J'ai des scénarios de côté. J'attends vraiment de que les portes s'ouvrent là pour la série télé. Et je veux atteindre la série télé, le cinéma, d'autres pièces de théâtre, d'autres trucs. On a la pièce avec Stomy qu'on a écrit Un jour Gérard Détroit sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est à l'affiche du théâtre du gymnase, où là je suis sur scène avec Stomy. Je joue le rôle d'un militaire français, Stomy joue le rôle d'un tirailleur sénégalais.
Vous êtes à l'écriture et à l'interprétation aussi.
Alors voilà, on a écrit ensemble, on interprète ensemble, on est auteur, acteur et coproducteur. On est producteur. Donc, et coproducteur, parce qu'il y a une autre boîte de prod avec nous. Mais on a fait. Et donc on a tous plein d'autres choses, de pièces de côté. On attend là de continuer. À percer tout ça pour emmener, ma vie maintenant c'est l'écriture, la lecture, l'acteur, la production, je suis à fond dans tout ça.
J'imagine que tu te rends compte maintenant quand tu me parles de toi en disant que tu, coproducteur, acteur, etc. Et il y a 10 minutes on parlait de toi et tu me parlais de délinquant, j'imagine que tu te rends compte tout le chemin parcouru. Je suis pas la première personne qui t'interview, donc ça c'est des flashbacks que tu t'es fait depuis des années. Comment tu en parles avec tes enfants, comment tu leur expliques et tu abordes ce sujet de ta vie, en fait?
Ils ont vu le spectacle plusieurs fois.
Ils ont l'âge de comprendre.
Mon fils, j'en ai un, j'ai un fils de 11 ans, un autre de 13 ans et ma fille a 17 ans.
Ouais, donc
et très jeune. dès le départ, je les ai emmenés à mon spectacle. Ils ont vu mon spectacle et je les ai emmenés aussi dans les quartiers pour qu'ils assistent au débat, pour qu'ils se rendent compte de tout ça. Quoi. Je les mets au milieu des jeunes, je les mets avec les jeunes et je leur dis écoutez aussi, parce que personne n'est à l'abri. C'est pas parce que maintenant on habite une maison dans un petit coin tranquille de Paris, tranquille, on a réussi à sortir des quartiers et ils sont inscrits dans des bonnes écoles et tout ça. Je veux quand même, je les emmène quand on a fait Argenteuil, Sarcelles, Grigny, même Toulouse et Marseille. Je les ai amenés avec moi. J'aurais aimé les amener là à Nevers, mais ça c'est pas. Ils avaient des activités, ils pouvaient pas. Et donc je les amène et je veux qu'ils participent au débat. Je veux qu'ils entendent tout ce que je dis aux jeunes, toute la prévention que je fais aux jeunes. Je fais la même prévention pour mes enfants et qu'ils assistent au débat, qu'ils écoutent les questions que les jeunes me posent et quand les jeunes racontent leur vie aussi, tout ça, qu'ils se rendent compte. Voilà, je veux vraiment, parce que ça concerne tout le monde de tous bords confondus. C'est pas parce que moi j'ai vu en prison, j'ai vu des jeunes de fils de bonne famille arriver en prison. On se demandait même comment ils avaient atterri là, et ils m'ont raconté leur vie. En fait, il suffit d'une mauvaise rencontre, d'un mauvais truc. Il faut être prudent, ça touche tout le monde.
Et puis les passages de l'adolescence qui peuvent amener des fois voir ce côté rebelle, et des fois ça peut vite partir.
Tu sais, comme je disais tout à l'heure, hein, il suffit qu'une rencontre, on te fait fumer un petit bout de tushy, tu pars en soirée, un truc, tu peux pas savoir. J'ai tellement entendu d'histoires, j'en ai tellement vu, que moi je dis ça nous concerne tous. Et même pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou que leurs enfants sont sauvés, qui sont sûrs et tout ça, ça nous concerne aussi, parce que on doit faire bouger les choses tous ensemble, tous, que ce soit le peuple, les médias, les éducateurs, les juges, les policiers, les anciens bandits, tous ensemble, les politiciens, les médias, et on doit faire tout ça, se faire ce gros travail pour en sauver au maximum, parce que si on les sauve pas, des jeunes qui se retrouvent en prison et perdus, ben ils peuvent être récupérés par des extrêmes, par des trucs, et on les retrouve sur des choses très graves, et c'est très grave pour tout le monde, quoi. Donc ça nous touche tous.
Et c'est ce que tu expliques auprès de ces jeunes. Oui, vas-y,
Très important que je sais pas si c'était la fin, mais que je dis qu'il faut qui est très très important pour moi. Il faut préciser qu'on apporte la justice restaurative. On a une grosse place pour les victimes.
Ouais, ça, je voulais en venir sur ce point, c'est super.
Que ce soit spectacle, quand on intervient dans les prisons, par exemple, dans les prisons, on fait atelier, débat, spectacle, et après le spectacle, on fait un autre débat, une autre conférence. Et pendant ce débat, pendant les ateliers, les victimes ne se présentent pas comme victimes, ils sont avec nous dans les ateliers, avec les jeunes, avec les prisonniers, tout ça. Tout le monde s'entend bien et tout. Après, je fais le spectacle, et après le spectacle, les victimes montent sur scène avec moi. Et les victimes montrent aux détenus ce que c'est qu'être une victime. Ils expliquent, par exemple, quand ils sont cambriolés, pour eux, les cambrioleurs, un cambriolage, ça dure 5 minutes. Il y a même un détenu qui a dit aux victimes une fois, mais madame, quand on s'attaque à votre bien, on s'attaque pas à vous. On attend que vous soyez partis au travail. Et eux, ils leur disent, vous imaginez même pas les séquelles. Quand on rentre du travail ou qu'on rentre de vacances et qu'on voit notre maison cambriolée, on le vit comme un viol. Notre intimité a été violée. On ne vit plus pareil dans une maison cambriolée. La nuit, au moindre bruit, on sursaute. C'est des années de séquelles. On s'en remet pas. Et des fois, on déménage même après. Il y en a, ils développent des maladies après un cambriolage. Ils déménagent. Ils peuvent plus vivre dans une maison cambriolée.
Une sorte de paranoïa qui se développe aussi, bien sûr.
Et les victimes qui disent ça aux détenus, qui expliquent tout ça aux détenus eux-mêmes, il se passe quelque chose de magique. On sent que ça match. Ça s'appelle la justice restaurative. Et je vous assure que c'est vraiment énorme ce qui se passe. C'est vraiment. Et dans les quartiers aussi, quand on peut, on amène des victimes aussi, dans les maisons de quartier, dans les centres culturels, partout. Et voilà, donc je suis super fier d'amener ça aussi, parce que c'était un travail qui me tenait à cœur de sensibiliser sur tous les domaines et d'apporter cette parole aux victimes.
Et c'est une manière de réparer aussi un petit peu le mal que tu te rends compte que tu as fait avant dans le passé aussi.
Comme je disais tout à l'heure, je me sens comme un miraculé, et je sens que je reviens de loin. Je sais ce que j'ai pu faire. J'aurais pu ne jamais tilter et être encore en prison et ou dans une sale vie et tout. Et la chance qu'on m'a donnée de comprendre, d'avoir ces déclics, je veux, moi, en une heure de spectacle, en une heure d'atelier, essayer de les faire comprendre ce que moi j'ai mis 20 ans à comprendre. Je me le dois, c'est une mission, je le sens comme une mission. Il faut le faire. Et c'est tellement beau. Et j'ai pas la prétention de dire que demain ça sera Mickey parce que David Desclos sera passé et ça y est, il y aura plus de voleurs, plus de délinquants, plus de victimes. Non, il y en aura toujours. Mais si au moins je peux en sauver un, sauver une victime aussi, en sauver un qui fera moins de victimes, ce sera gagné. En sauver juste un, ce sera gagné. Et je le sais déjà. déjà, parce que ça fait quand même quelques années qu'on tourne. Il y a eu les 2 ans d'arrêt de Covid, et donc voilà. Mais sinon, 2 ans avant le Covid, on le faisait. Là, on reprend que maintenant cette année et tout. Et donc, on a déjà des retours sur ce qu'on a fait avant. On a des jeunes qui sont revenus me voir, qui étaient en prison, qui sont revenus me voir au théâtre à Paris, qui m'ont dit merci, qui m'ont ramené des jeunes avec eux et qui m'ont dit merci David, maintenant je travaille, ma femme est enceinte, merci, merci. Et des même sur les réseaux sociaux qui m'envoient des messages, qui me disent merci David, qui m'ont ramené. Et donc je sais déjà qu'on en a sauvé et donc ça n'a pas de prix.
Ouais, ils viennent, ils te montrent le déclic qu'ils ont eu grâce à toi en expliquant déclic que tu as eu.
C'est ça.
Merci David. Je voudrais finir, j'ai pas de questions à te poser, je voudrais juste te remercier parce que depuis tout à l'heure dans ton interview tu parles beaucoup de paroles données, de tenir sa parole, de tout ce que tu dois, et je voudrais te remercier parce qu'on s'est vu là quand on enregistre, il est vendredi, on est à quelques heures de ton spectacle, tu es très fatigué, ça se voit d'ailleurs parce que je sais que t'as enchaîné des journées. Nous on s'est vu mercredi 5 minutes. Je t'ai posé quelques questions comme ça à la volée, tu m'as dit je te donne mon numéro de téléphone et on se rappelle, tu m'as donné ton numéro de téléphone pour de vrai, je t'ai envoyé un message et tu m'as promis que tu me rappellerais, et c'est vrai que tu m'as rappelé ce matin, j'ai foncé à venir te voir et voilà, je voudrais te remercier parce que tu as tenu ta parole et malgré le fait que tu sois fatigué, ça se voit, t'as les yeux très rouges, ça se voit que t'as envie de dormir, t'es toujours là à me parler et ça va faire 38 minutes exactement qu'on enregistre et t'es là à m'expliquer ta vie et j'aurais vraiment te remercier pour ça parce que c'est très beau de ta part, merci.
Je suis très touché, merci.
Merci
mec.